Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'épidémie de choléra au Liban, la société médicale euro-libanaise tiendra un séminaire en ligne ce soir. Parmi les participants, la médecin infectiologue Madonna Matar. La vaccination nous aidera à limiter les dégâts, mais la vaccination n'est pas la solution, nous dira-t-elle. Entretien dans votre journal. La vacance présidentielle au Liban, pas de nouveau président élu à l'issue de la 7e séance électorale ce matin. Une quinzaine de femmes afghanes a manifesté ce matin à Kaboul, une brève manifestation pour défendre leurs droits à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Gros plan dans votre édition sur la carrière de l'auteur, compositeur et metteur en scène libanais Roméo Lahoud. Il est décédé mardi à l'âge de 92 ans. Elimas Bounji, journaliste, président de l'Association de la presse étrangère, nous fera part de son riche parcours. Le Tunisien Yamen Manaï a remporté en France le prix de la littérature arabe, une récompense pour son roman Bel Abîme, édité par Elizade. Le mondial de football face à face en ce moment entre la Suisse et le Cameroun. Il faut empêcher que l'épidémie de choléra au Liban se transforme en pandémie. C'est ce que nous dit la médecin infectiologue Madonna Matar. Elle participera ce soir à 20h heure de Paris à un séminaire en ligne consacré à cette épidémie, sur cette épidémie de choléra qui sévit depuis octobre dernier au Liban. Entretien avec le docteur Madonna Matar.
L'épidémie avait commencé le 6 octobre dans la région du nord du Liban. Et puis, ça s'est répandu dans d'autres régions, mais la majorité, la concentration, elle reste toujours au nord. Donc, on a aussi eu des cas, ça a commencé avec dans les camps de réfugiés chez les Syriens. Et puis, ça s'est sorti de là-bas, et puis ça s'est répandu dans plusieurs villages du nord du Liban. Des cas aussi, il y a des cas, et puis il y a des cas éparpillés un peu partout dans les régions libanaises.
Est-ce que vous pouvez nous faire part aujourd'hui de vos actions et des actions des autorités pour tenter de contrer cette épidémie?
Depuis que ça a commencé, le ministère de Santé a lancé une alerte au niveau de tous les ministères, parce que là, ce n'est pas une affaire seulement de ministère de Santé, mais tout le monde doit être là, tout le monde doit travailler, aider. Parce que principalement, le problème que cette maladie, cette bactérie du choléra, elle se transmet par l'eau. Et quand l'eau est souillée, ça risque de souiller toutes les régions, parce que l'eau, elle irrigue plusieurs régions, plusieurs villages, plusieurs villes. Et le problème, c'est que l'état sanitaire, c'est-à-dire tout le système sanitaire, infrastructure au Liban, à cause du fait qu'on a un problème avec l'électricité. L'électricité, l'État nous procure l'électricité, disons, une heure par 24 heures seulement. Et puis le reste des 24 heures, c'est par des moteurs, des générateurs que l'on s'alimente pour avoir de l'électricité. Et parce qu'il y a aussi au Liban, à cause de cette défaillance et la chute économique qu'on a eue, et puis la dégringolation de la livre libanaise, le mazout qu'on utilise pour les générateurs coûte énormément cher. C'est pourquoi on n'a plus l'électricité 24 heures sur 24. Il y a des coupures de courant pendant plusieurs heures par jour. Et quand il y a des coupures de courant, les générateurs aussi, ils s'arrêtent. Donc, les pompes d'eau, les pompes de filtrage d'eau s'arrêtent. Donc, et s'il y a déjà un problème à la base, donc l'eau potable, elle est même souillée par l'eau des égouts. D'accord ? C'est le problème principal. À part l'eau qui peut être contaminée, dans les régions du Nord et dans plusieurs régions, parce que par manque d'eau, manque d'électricité, donc manque d'eau aussi, ils sont en train d'arroser les plantes, les plantations, par des eaux qui ne sont pas propres, des eaux d'égout et contaminées. Donc là aussi, pour les légumes, ça, c'est dangereux. Donc nous, on a tout de suite commencé à travailler avec le ministère de Santé, à travailler avec toutes les organisations mondiales, comme l'OMS, le UNICEF, beaucoup, toutes ces organisations qui sont au Liban, Médecins sans frontières, etc., la Croix-Rouge. Et on se réunit au moins deux ou trois fois par semaine. Donc chacun a offert un certain support et des aides. Chacun a pris un secteur. Par exemple, la chlorination de l'eau, rajouter du chlore dans l'eau, pouvoir procurer de l'électricité pour faire fonctionner ces pompes d'eau dans tous les centres, dans tous les villages, Principalement, on a commencé par les villages qui sont le plus affectés, et les villes. Et puis, on a préparé aussi pour l'hospitalisation, il faut préparer les kits, préparer les lits d'hôpitaux, les perfusions qu'il faut donner aux malades, les solutions de ORS qu'il faut boire avec des électrolytes, quoi, parce que la diarrhée est très très forte, donc on doit remplacer tout ce qu'on perd. Il faut aussi entraîner les équipes à comment gérer, parce que c'est la première fois là qu'on a un choléra.
L'ensemble des malades aujourd'hui peut être pris en charge ?
Par le ministère de Santé. Les Libanais sont pris en charge par le ministère de Santé. Et puis les Syriens ou bien les étrangers, par les organisations mondiales, eux, c'est eux qui aident économiquement, je veux dire, pour couvrir l'hospitalisation, les traitements, le chlore qu'on distribue. On a demandé à toutes les personnes, par exemple, dans un village, nous, on essaie de chloriner l'eau à la source. Et puis même dans leur réservoir, dans leurs immeubles, ils doivent mettre du chlore chaque semaine, contrôler le chlore, si c'est bien, boire de l'eau potable. On leur a appris comment rendre l'eau potable si elle n'est pas de l'eau fermée par des bouteilles, rajouter 2 gouttes de chlore ou bien faire bouillir l'eau avant de la boire. Donc éducation, beaucoup, beaucoup d'éducation. Il y a des équipes aussi qui s'occupent de ça et qui montent sur le champ pour suivre tout ce qui se passe, si ça se fait selon les règles. En plus, l'OMS nous a aussi aidés pour procurer la vaccination. On a commencé à vacciner les lieux dans les régions les plus atteintes. Donc, on a commencé une dose de vaccin à toute la population qui habite là-bas. Et puis aussi, on nous a promis, parce qu'il y a aussi un manque de vaccins apparemment mondialement. Donc, on nous a promis un deuxième, troisième lot de vaccins et on va voir le total qu'on va avoir.
Aujourd'hui, vous nous dites que vous manquez de vaccins. Vous n'en avez pas suffisamment pour le moment?
Il n'y a pas suffisamment de vaccins pour la choléra. Mais il faut savoir que la vaccination, elle nous aidera à limiter les dégâts. Mais la vaccination seule n'est pas la solution. La solution, c'est, même si dans un pays, vous avez un cas de choléra qui rentre dans un pays, si le système... L'infrastructure sanitaire, elle est appropriée, il n'y aura pas de problème. Mais il faut seulement séparer l'eau des égouts de l'eau potable. Donc c'est le problème majeur.
Et vous mettez en lumière le lien entre la situation économique catastrophique au Liban et la résurgence de cette épidémie de choléra.
Où il y a des cas de choléra, c'est dans les pays pauvres où il manque d'hygiène et d'infrastructure. C'est le problème, oui. Absolument.
Quels sont les principaux symptômes de cette maladie?
C'est principalement la diarrhée. On peut avoir une diarrhée très, très sévère, la diarrhée, donc plusieurs litres par jour. On peut monter jusqu'à 20, 25 litres par jour. Et on n'a pas de fièvre normalement avec la choléra. Parfois, il y a des malades qui vomissent un peu, des douleurs abdominales. Mais surtout, surtout, c'est la diarrhée intense qui devient tellement intense, qui devient comme de l'eau de riz. De l'eau trouble. Et puis, il s'agit en quelques heures, si quelqu'un a une telle, aussi forte diarrhée, il peut mourir en quelques heures. Comment on peut mourir à cause de choléra? On peut devenir, déshydraté. Quand on est déshydraté, il y a des troubles électrolytiques. Le sodium, le potassium, tout change. Donc, on peut avoir des intoxications à cause de la déshydratation et des troubles électrolytiques. Donc, une insuffisance rénale, la créatinine augmente. Et puis, on peut aussi avoir des troubles de rythme cardiaque. On peut avoir tout va découler de cette déshydratation sévère.
Vous participez ce jeudi à une réunion avec d'autres scientifiques concernant cette épidémie de choléra au Liban.
Vrai. Ce jeudi, on a regroupé tous les médecins en Europe, particulièrement la France. On va discuter un peu le sujet du choléra. Le ministre de Santé va leur exposer un peu ce qui se passe au Liban. Moi-même, je vais aussi un peu parler de la situation au Liban. Le président de l'Ordre des médecins va participer pour parler un peu aussi de la capacité du point de vue médical et médecins et hôpitaux, etc. Et puis, il y a deux spécialistes de la France qui vont discuter particulièrement de cette bactérie et des effets néfastes et le traitement. Et on va revoir un peu, discuter ensemble, tout à propos de l'épidémie de choléra.
Quelles sont les conditions pour que cette épidémie ne se développe pas davantage? Et disposez-vous aujourd'hui des moyens supplémentaires pour éviter une explosion de cas?
Nous, on a commencé, au fait, partout, dans toutes les régions, avec toutes les équipes, avec toutes les organisations mondiales, les NGO, tout ça, à travailler sur ce chapitre. Même la Société de maladies infectieuses, moi je suis la présidente de la Société de maladies infectieuses, aussi tous mes collègues médecins infectiologues dans tous les hôpitaux, dans toutes les régions, on collabore et on participe à ce travail. Premièrement, il faut assurer de l'eau propre à boire. Deuxièmement aussi, comment nettoyer tous les légumes, les végétaux, parce qu'il faut manger, tous les aliments doivent être bien cuits. Donc aussi, on explique à ce sujet. Donc eau, aliments propres, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et quand on a des malades aussi, on suit les protocoles d'isolement. Et comment traiter les malades, tout le monde maintenant s'y connaît et on distribue tous les guidelines, les protocoles de traitement. Et pour arrêter ceci, la vaccination aussi, elle peut nous aider. Et pour arrêter en plus au niveau du pays, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Donc c'est assurer l'électricité, pour assurer de l'eau, c'est l'infrastructure du pays tout entière pour empêcher à ce que ça ne se transforme pas en pandémie.
La médecin infectiologue, présidente de la Société de la maladie infectieuse au Liban, le docteur Madonna Matar. Le Liban qui vit une vacance présidentielle. Les députés libanais se sont réunis ce matin au Parlement à Beyrouth pour une séance consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. Le poste est vacant depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Faute de consensus, cette septième séance électorale n'a pas abouti à l'élection d'un président. Le prochain rendez-vous électoral pour les députés est fixé au 1er décembre prochain. Le bilan de la répression des manifestations s'alourdit en Iran. 72 personnes ont été tuées la semaine dernière, dont 56 dans les régions kurdes. Bilan fourni par l'ONG Iran Human Rights. Le bilan total monte à 416 morts depuis le début du mouvement de contestation déclenché le 16 septembre dernier par la mort de Mahsa Amini, cette jeune kurde iranienne âgée de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire strict imposée aux femmes iraniennes. Cette répression des manifestations doit cesser, a exhorté aujourd'hui le chef des droits de l'homme de l'ONU devant le Conseil des droits de l'homme. 14 000 personnes ont été arrêtées depuis le début de ces manifestations. Une quinzaine de femmes afghanes a manifesté ce matin à Kaboul, une brève manifestation pour défendre leurs droits à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021, les droits et libertés des femmes ont été fortement réduit. Les écoles secondaires pour filles ont été fermées et les femmes fonctionnaires sont exclues de la plupart des emplois publics. Les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville et doivent se couvrir d'un voile intégral. Elles n'ont plus le droit de fréquenter les parcs et jardins de Kaboul, mais aussi les gymnases ou les bains publics. Le Tunisien Yamen Manaï a remporté en France le prix de la littérature arabe, une récompense pour son roman Bel Abîme, un livre sur la violence dans les milieux les plus défavorisés de son pays, roman publié par les éditions Elizade. Le prix, doté de 10 000 euros, a été créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du Monde Arabe. L'auteur, compositeur et metteur en scène libanais Roméo Laoud est mort à l'âge de 92 ans. Il a fondé 5 théâtres, dont celui de l'Hôtel Phénicia, devenu grâce à lui le premier théâtre permanent. On lui doit aussi plus de 300 chansons. Roméo Laoud a reçu 70 trophées décernés par des organisations culturelles et artistiques. Elimas Bounji, journaliste, président de l'Association de la presse étrangère, nous fait part de son riche parcours et de sa tristesse suite à cette disparition.
Triste nouvelle que cette disparition d'un homme qui a accompagné la vie culturelle et le monde culturel libanais pendant plus de 60 ans. Presque centenaire aujourd'hui, il a donné toute sa vie, toute son énergie, tout son talent et aussi tout son patriotisme, car Roméo Lahoud n'était pas un artiste ordinaire. C'était un artiste engagé, mais engagé envers son pays, engagé envers le Liban, et rien que envers le Liban. Ce qui représente une perte énorme pour la culture libanaise, l'art et le peuple libanais tout entier. Qui ne connaît l'œuvre de Roméo Lahoud? Les réalisations théâtrales, artistiques, musicales de Roméo, infatigables, toujours avec le sourire, toujours avec son charme tout à fait naturel. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui, qu'il s'agisse de musiciens, chorégraphes, etc., ont quitté les répétitions, les réunions avec un regret et l'idée que voilà, c'est encore une réunion, c'est encore une répétition qui se termine. Et il paraît que Il dirigeait tout ça avec fermeté, mais jamais un mot, jamais une colère. On peut dire une main de fer dans un grand velours, mais avec un verbe et un charme envers tous ses collaborateurs. Au moment où le Liban perd ses élites, ces hommes qui ont fait de ce pays une place culturelle et qui a exporté vers les pays environnants et à travers le monde ce génie créatif, ce génie créateur libanais, on ne peut que saluer sa mémoire et vraiment, vraiment, vraiment dire à Roméo, adieu, le Liban et le peuple libanais. Nous t'oublierons jamais.
Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui vous a marqué chez cette personnalité ?
Ce qui marque, c'est une prestance. Une présence et une prestance, je dirais. Une présence parce qu'il emplissait les cœurs et les lieux où il se trouvait. Il les emplissait d'une joie qu'on ne pouvait pas, une quiétude, une gentillesse, une simplicité, mais aussi une détermination à réussir tout ce qu'il a entrepris, sans délirer personne, sans bousculer personne dans le monde de l'art. Dieu sait si dans ce monde-là, il y a des rivalités, et il y a des problèmes, des discussions, etc. Des discussions peut-être, mais jamais, 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 Roméo n'a eu des différends vraiment, ni aucun acte, ni geste violent vis-à-vis des artistes et du monde de l'art et de la culture. C'est cela qui frappait chez Roméo, une présence sans aucune faille, je dirais. C'est vraiment tous ceux qui l'ont connu, moi je l'ai connu comme journaliste, mais tous ceux qui ont travaillé avec lui reconnaissent ce que je viens de dire et même pourraient vous dire beaucoup plus de choses sur sa création, sur son génie. Car la créativité est une chose que le public évalue à sa propre valeur. Mais la source et l'inspiration, seuls les gens proches de Roméo en connaissaient la provenance et l'intensité.
Elie Mazbounji, journaliste, président de l'Association de la presse étrangère, président de Trilogue News. Le mondial de football au Qatar, face à face en ce moment entre la Suisse et le Cameroun. La Suisse mène 1-0 à 14h dans le groupe H, rencontre entre l'Uruguay et la Corée du Sud, à 17h entre le Portugal et le Ghana. À 20h dans le groupe G, le Brésil affrontera la Serbie. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission présentée par Alexis Bachelet, déclin de la France, mythe ou réalité, point d'interrogation. Ses invités, Stéphane Rosès, politologue, président de CAP, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.